Bonjour à tous, à toutes. Content de nous retrouver. Dimanche dernier, nous étions avec Marie-Annick, nous étions absentés quelques jours. Nous avions été invités par une assemblée en Belgique, une invitation qui datait depuis un moment. C'est l'assemblée où étaient Jean-Marc et Joël de Conin, qui est Rémi, qui est là. C'est une invitation qui avait été donnée au mois d'octobre, et puis que j'avais acceptée pour diverses raisons, parce que je n'avais pas de raison de ne pas l'accepter. Et puis, pour tout vous dire, ma maman a vécu en Belgique les 6 premières années de sa vie, et je n'étais jamais allé en Belgique, alors ça a été aussi une occasion. Et c'était un temps béni. Les circonstances ont fait qu'il y avait une pastorale régionale, si vous voulez, au niveau de la FEPEF, il y a différentes zones, et cette pastorale régionale se déroulait à Douai. L'une avait eu lieu l'année dernière ici, et donc j'ai appris que cette pastorale, elle était le 29 avril. Alors finalement, ça s'arrangeait bien. Le Seigneur a conduit vraiment les choses, et on a été bénis dans ces jours. Ça permet aussi des rencontres avec des frères, des sœurs, des gens qui sont engagés dans la vie de l'Église. C'est une assemblée qui ressemble un peu à la nôtre, hein, dans sa taille, dans sa vision, hein, dans la vision que l'Église... vraiment une famille, et c'est ce qu'ils vivent, hein, avec tout ce qui se passe dans une famille, hein, évidemment. Hein, il n'y a pas que ici. Voilà, donc c'était vraiment un bon moment. Ce matin, vous avez sûrement remarqué vraiment le culte orienté, on ne s'est pas concerté, ni entre celui qui préside, ni le conducteur de la louange et l'équipe de louange. C'est vraiment un culte d'adoration. Celui qui est notre Dieu, celui qui, dans les prières, a été rappelé ce qu'il a fait, ce qu'il est. On dit, Seigneur, on veut être qu'à toi. Et vraiment, il y avait une tonalité particulière. Et moi, ça m'a encouragé parce que, en préparant ce message, je me disais, vous savez, j'aime bien dans les messages qu'il y ait des aspects extrêmement concrets. Des fois, je prends des exemples aussi dans ma vie. Et puis là, j'avais à cœur de contempler un peu le plan de Dieu. Le plan de Dieu, comment il a fait pour nous ramener de cette terrible séparation après la chute en Éden, comment il a fait. Vous savez, dans les lettres de Paul notamment, il dit dans Éphésiens, je le rappellerai, vous voyez, quand il explique qu'on était perdu, mort dans le péché, etc. Et puis à un moment, il dit dans Éphésiens 3, il dit, vous voyez avec ces quelques mots, quelle révélation j'ai eue du plan de Dieu. Révélation, oui, c'est la révélation de ta parole qui est claire. On peut des fois lire la Bible, des gens lisent la Bible, il y a des théologiens, mais ils n'ont pas saisi, ils n'ont pas eu la révélation. Et simplement, je veux dire ce matin, je voudrais avec vous, un peu comme une causerie, contempler ce que Dieu a fait, ce qu'il est, son plan. Vous savez, on dit ses pensées sont au-dessus de nos pensées, ses voix sont au-dessus de nos voix, on peut le vérifier tous les jours dans nos vies. Tenez, je vais vous raconter une petite anecdote avant de démarrer. Dans ce circuit que nous avons fait, à un moment, nous sommes allés à Bruges. Il paraît que c'est la Venise du Nord. Bon, on s'est pris une journée un peu de détente. Et à Bruges, il y a des embarcations, des espèces de barques dans lesquelles on sillonne un peu sur les canaux. Et alors, on irait bien faire un tour, oui. Oh, je vois ces embarcations pleines à craquer, la foule des cars de Japonais, de Chinois avec le bus 13, le bus 57, etc. J'ai rien contre les Japonais et Chinois, hein, les touristes, c'est bien. Mais bon, moi. Bon, puis je dis, oh, tant pis, on va prendre une place. Je vous assure, toutes les embarcations étaient pleines à craquer. On prend nos tickets, on nous indique une embarcation, on monte, il y avait un couple. Bien assis au fond du barca, ils avaient pris les meilleures places, enfin, elles étaient pas mal. Nous, on s'assied, on prend un petit peu de distance, en amoureux. Et puis, le départ est dans 10 minutes, alors on attend. Et puis, on voyait que le pilote, là, il s'agitait quand même, il essayait de rabattre. Il y avait les quarts de touristes qui étaient là. Personne ne bouge. Un troisième couple arrive. Nous voilà 6 dans l'embarcation. Et désespéré, là, ça ne marche plus. Et désespéré, eh bien, écoutez... Il nous a embarqués. Et vraiment, j'étais touché. Moi, je l'ai vraiment reçu. Le Seigneur, il nous fait des cadeaux comme ça. Il nous a fait une petite promenade en amoureux. Je vous assure, je ne vais pas jurer, je vous assure, c'est la seule embarcation qui a été comme ça de la matinée. On a fait tout le circuit, on a vu une vingtaine d'embarcations, elles étaient pleines à craquer. On est revenu, il y avait plein de monde qui attendait pour monter dans son embarcation. Il est bon, notre Dieu. Il nous fait des cadeaux. Il n'est pas que utilitaire. Il est tout simplement bon, il nous aime. Et la révélation, c'est de le reconnaître dans toutes nos voies. Et pour, bon, ça vous paraît peut-être une petite anecdote, tu dis, oh, le pasteur, il est... Mais écoutez, moi, je vais vous dire clairement, dans ma vie, c'est une victoire. J'ai tellement eu du mal à accepter qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il m'aime, et il vous aime parce qu'il vous aime. Parce que c'est sa nature. Alors ce matin, je voudrais qu'on contemple un peu ce plan de Dieu. Dimanche prochain, ce sera la Pentecôte. Et il se trouve, les circonstances font que c'est également moi qui apporterai le message. Je me suis dit, tiens, on pourrait prendre un peu de temps autour de la Pentecôte. Et vous savez, comme Noël, Pâques, ce sont des temps importants dans la tradition chrétienne. Alors bon, faut-il se joindre ou non à ces commémorations? J'en sais rien. En tout cas, on va saisir l'occasion pour voir un peu ce qui s'est passé à cette Pentecôte. Le titre de mon message, ce sera la Pentecôte, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et en fait, je vous invite ce matin à considérer la Pentecôte dans le chronos. Vous savez, le chronomètre, hein, c'est ce qui mesure le temps qui défile. Après, il y a les temps de Dieu, hein, c'est le kéros en grec, c'est où Dieu intervient un moment dans le temps, quand c'est le temps. Hein, il y a deux termes pour le temps. Là, on va regarder un peu comment la Pentecôte s'inscrit dans le déroulé du plan de Dieu qu'il a conçu de toute éternité. Merci, ma chérie. Et donc, si vous voulez, je vais aborder les choses pour qu'on regarde un peu la révélation croissante de Dieu. Dieu, il est toujours le même, hein, hier, aujourd'hui, éternellement. Mais après cette terrible séparation, qu'est-ce qui s'est passé et comment Dieu va revenir nous chercher pour qu'on puisse enfin un jour entendre cette parole qui nous a été rappelée en introduction. Viens, viens, cela est possible. Mais c'est d'abord lui qui s'est rapproché. Donc comprendre le temps où nous sommes aussi, nous, par rapport à tout le chronos de Dieu. Dieu est éternel, l'humanité a été créée, etc. Il y a eu la chute. On en est où finalement? Aujourd'hui, nous là, qui nous réunissons, qui nous disons chrétiens, et qui le sommes, je pense, pour un bon nombre, où sommes-nous? Quelle époque nous vivons finalement? La parole nous dit que ceux qui nous ont précédés ont saisi que les choses qu'ils vivaient n'étaient pas pour eux-mêmes, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Un autre passage, il est dit, ils ont saisi pourtant l'Esprit de Christ, alors que Christ, Jésus-Christ n'était pas encore venu, mais ils ont saisi. D'autres passages, ils l'ont vu et salué de loin. Alors nous, ils ont vu et salué de loin des choses que nous sommes censés vivre. Alors aujourd'hui, certains sont en avance, ou ont pris des raccourcis par rapport au chronos de Dieu. Certains disent, c'est déjà le royaume de Dieu et les chrétiens sont chargés de l'installer. Ça, c'est ceux qui sont un peu en avance. Hein. Il y en a d'autres qui sont en retard. Ils continuent à faire des sacrifices, à renouveler les sacrifices. Ils ont loupé un wagon un peu. Hein. Alors, qu'en est-il en fait? On en est où dans cette histoire-là? Pour d'autres encore, la victoire remportée pour Christ à la croix est totale et doit être manifestée en toute occasion. Pourtant, nous continuons de mourir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans tout ça? Alors, je vous propose qu'on reprenne un peu les différentes étapes qui se sont déroulées. En Éden, j'irai très vite, c'était merveilleux. Dieu a pris de la poussière de la terre. Je note que la terre, c'est lui qui l'avait créée. Donc, il prend de la poussière de la terre, il souffle. Et l'homme, le premier Adam, devient une âme vivante. Très bien. Et puis, il y avait une relation avec Dieu. Il y avait une proximité. Il y avait une proximité. Dieu se promenait dans le jardin, il parlait à Adam. C'était simple, quoi. Hein? Il y avait une proximité. L'homme, c'est par le souffle de Dieu qu'il a reçu le souffle, existence et l'être, et nous également, hein, cette vie, on va dire, naturelle. On verra à la fin que la vie que Dieu nous donne aujourd'hui est une vie, j'allais dire, presque supérieure à cela. À la chute, la conclusion de la chute, c'est que l'accès au jardin, dont je vous rappelle que Dieu avait confié la garde du jardin. S'il avait confié la garde, c'est qu'il y avait une raison de garder le jardin. C'est que l'ennemi devait rôder quand même. Il n'était pas entré, mais il devait rôder. Donc Dieu, le mystère de l'iniquité, était là. Donc à la chute, l'accès au jardin est gardé par des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder l'accès à l'arbre de vie. Ça veut dire qu'à la chute, nous sommes séparés de l'arbre de vie. Donc l'homme qui avait pour mission de garder le jardin et qui a failli se voit refuser l'accès. C'est clair, c'est net. Le rôle des chérubins avec des épées flamboyantes, c'est de garder et d'interdire l'accès à l'arbre de vie alors que Dieu avait voulu donner ça à l'homme. Voilà la position de départ, la position tragique. Mais il est dit que Dieu, de toute éternité, avait conçu le plan pour la réconciliation. Et moi, ça m'émerveille. Vous voyez, je trouve que c'est vraiment des temps d'adoration où simplement, nous avons besoin de nous souvenir, de considérer, j'aime bien ce terme, de considérer ces choses. Parce qu'on peut être habitué. Le sang de Jésus a coulé, je suis sauvé, etc. Arrêtons-nous, adorons, considérons ces choses. Là, je vais parler d'une étape, Dieu, le retour. Le retour. Alors, comment s'est fait ce retour? Il s'est fait progressivement. On va voir des hommes dans la Bible dont il est dit ils ont été trouvés justes. Enoch, c'est déjà prophétique. Enoch n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Il y en aura un autre, Élie, enlevé sur un char de feu. Déjà, une préfiguration d'une étape bien lointaine par rapport à leur vie, qui sera l'enlèvement. Vous voyez un peu le Dieu, le plan était conçu de toute éternité. Il a conçu en lui-même, nous dit Éphésiens. Il s'est réuni avec lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont tenu conseil pour élaborer ce plan merveilleux qui nous dépasse sur des siècles pour nous, qui sommes, dont la durée des jours est bien courte. Job également fut trouvé un homme juste. Noé était un homme juste, et par lui un petit nombre fut sauvé, c'est-à-dire 8 personnes, sa famille. Et puis, Dieu va continuer de se révéler et on a Abraham que Dieu choisit pour constituer un peuple qui lui appartienne. Là aussi, un peuple prophétique, c'est le peuple hébreu, un peuple à qui une promesse est faite, je vous conduirai dans le bon pays où coule le lait et le miel. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Il y a vraiment, il s'approche. Dieu, je vous rappelle que pour l'instant, l'accès est fermé. Les chérubins sont toujours en place. Et Dieu prépare un chemin du retour. On sait ce qui a fermé, c'est le péché, c'est cette désobéissance et cette indépendance. Et avec ce peuple, Dieu manifeste déjà sa grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes un peuple puissant, parce que vous êtes le plus petit des peuples, mais c'est parce que Dieu vous aime. Avec Moïse, on a une préfiguration, une annonce de la réconciliation et du retour à Dieu. Dans Exode 2, versets 7 à 10, il est dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Et oui, ce bon pays, il va falloir le conquérir, mais je crois que vous en avez entendu parler dimanche dernier. Il y a quelques géants et quelques à dégager. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu se rapproche. Dieu se rapproche. Il se donne un peuple à qui il va parler. Là aussi, peuple prophétique. Et Dieu, il se rapproche, il parle. De nouveau, Dieu parle d'une manière audible à tout le peuple. Est-ce que vous imaginez la scène? La parole est claire. Dieu a parlé du Sinaï, il a parlé d'une manière audible à 700 000 hommes, plus les femmes et les enfants, plus le ramassis de gens, nous dit la Bible, qui était avec ce peuple. Dieu a parlé d'une manière audible. Quand on commence à être à portée de voix, c'est que ça se rapproche. Dieu a parlé à son peuple, il lui a donné une loi, des commandements, et il lui a donné une première voie pour résoudre ce problème du péché. C'est la loi de Moïse et le sacerdoce lévitique. Il va falloir offrir effectivement des animaux. Alors c'est un sacerdoce qui est imparfait, la lettre aux Hébreux nous le dira, parce que un certain nombre de péchés ne peuvent trouver, n'ont pas de sacrifice pour effacer ce péché. Donc il y a encore un accès. À travers cela, Dieu déroule son plan et fait une pédagogie. Je vous rappelle que Dieu est un Dieu de pédagogie. Vous avez entendu parler la semaine dernière des géants. Géants, c'est hein, lors de la, c'est David, mais aussi lors de la conquête. Hein. Je pense que tous les géants qui ont été énoncés la semaine dernière par Yves, c'est vraiment tous ces phérésiens, ces jébusiens, etc., toutes ces tribus qui occupent. Et je veux souligner, Dieu est un Dieu pédagogie et il sait ce qu'on peut supporter. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il n'est pas entré tout de suite en Canaan. Et la parole nous dit pourquoi. Parce que s'il avait passé par le chemin le plus court, ils auraient eu peur de ces géants. Ils auraient eu peur de ces géants. Dieu est un pédagogue, il y va par étapes. Il a commencé par emmener son peuple au désert pour parler à son cœur, pour nous montrer ce qu'il y avait dans notre cœur. Pour qu'on perde petit à petit toute illusion, qu'on arrive à un bon désespoir de nous-mêmes et que toute notre espérance soit en lui. Donc c'est un pédagogue, on va le retrouver sans arrêt. Ça nous est dit aussi que l'Ancien Testament et la loi nous a été donné comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est un Dieu qui prend soin de nous. Donc à travers la loi aussi, il y a une pédagogie. À travers la loi, à travers les rites sacrificiels qui ne suffisent pas à régler un certain nombre de péchés, il y a une pédagogie. Il y a une prise de conscience de ce qu'est le péché et que seul l'agneau immolé pourra le régler. C'est une pédagogie. Elle a duré un certain temps. Elle a duré 1500 ans. À ce sujet, soyons... Ne jugeons pas vite le peuple de Dieu qui n'a pas reconnu son Messie. Il vivait depuis 1500 ans sous un régime donné par Dieu, celui de la loi. Et Jésus va dire, mais il est insuffisant, quoi. Il va venir le démontrer. Regardez comme souvent on peut être pris par des traditions. C'est un peu pour ça aussi que je fais ce message aujourd'hui, pour qu'on se repositionne. Qu'on se repositionne dans la merveille du plan de Dieu, quoi. Et combien on peut très très vite, c'est dans le cœur de l'homme, hein, on est religieux, on va ramener à des choses à notre portée, on a du mal à saisir ces choses. Et pourtant, la parole nous le dit, et ce matin, on veut essayer de faire mémoire aussi et de souligner ces choses. Avec ce peuple, avec la loi qui est donnée au Sinaï, avec le service sacerdotal du Lévitique, nous avons une étape. Un médiateur aussi est donné, Moïse. Le peuple va entendre la voix, mais il va dire, oh là, ça c'est trop fort pour moi. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Il y a bien un médiateur, Moïse, qui va faire le médiateur entre Dieu. Et lui, Moïse, va avoir une intimité. Ça se rapproche encore. Nous avons le tabernacle qui vient là. Et là, c'est d'une manière matérielle, des ordonnances charnelles, il y a le tabernacle au milieu du peuple. Vous voyez les trois tribus de chaque côté du tabernacle. Et Dieu, il veut montrer par là qu'il désire habiter au milieu de ce peuple. Alors c'est des tentes, c'est etc., c'est le lieu saint, le lieu très saint, et seul Moïse, seul le souverain sacrificateur, va pouvoir venir une fois par an au lieu très saint, c'est-à-dire dans l'intimité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas encore très ouvert. Mais Dieu se rapproche. Mais Dieu se rapproche. Le voilà installé dans une tente au milieu de son peuple. Et le chemin se poursuit. Dieu accomplit les promesses faites à Abraham avec Salomon, qui occupe tout le territoire qui a été promis. Je vais très vite, hein, vous notez, parce que la conquête de Canaan a duré plusieurs siècles. Ça a bien commencé avec Josué. Ça n'a pas été terrible du temps des juges. Hein ? Ça a avancé vraiment K1, K1. Pourquoi ? Et là, il y a quelque chose qui doit nous parler. Pourquoi cette conquête ? Elle aurait pu être plus rapide aussi. Le thème de la conquête de Canaan, c'est « Vous dévouerez par interdit toutes ces peuplades idolâtres. Vous ne laisserez rien. » Et c'est ce qu'a fait Josué, à part qu'il s'est fait avoir avec les Gabaonites. Mais les juges qui ont suivi, le peuple se détournait, et redevenait sous une oppression. La conquête de Canaan était très longue. Il y avait une raison que Dieu avait donnée aussi. Si ça libère trop vite, en fait, l'orgueil spirituel pourrait venir. Donc il sait aussi le rite. Mais pour une bonne part, c'est quand même la désobéissance et l'idolâtrie qui ont retardé la conquête. Toujours est-il que la conquête va se terminer avec David, qui est encore un homme de guerre, un homme de combat spirituel. C'est un gros chantier, cette histoire-là. Mais la paix va s'installer. Et ça, je l'affirmais, dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, vient un temps où la paix, non pas la paix avec Dieu, c'est l'œuvre, ça, du salut initial, mais la paix de Dieu, quelque chose qui vient, qui s'installe, pas juste pour être zen, excusez-moi l'expression, mais pour être opérationnel, pour être pleinement efficace dans le royaume, la paix de Dieu vient s'installer. C'est la paix de Salomon. Donc vous voyez, il y a cette intimité qui croît. Et Salomon va installer le peuple dans une paix certaine, sur des territoires bien protégés, et le temple va être construit. C'est vraiment Dieu la règne sur son peuple. On sait que ça ne va pas durer, mais à ce temps, il règne vraiment sur son peuple. Et il a donné à Salomon une sagesse. Parce que Salomon a demandé, il avait une intimité avec Dieu. Il a commencé à comprendre des choses. Il a reçu cette sagesse. Et Dieu lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse et non pas la richesse, eh bien tu auras la richesse en plus. L'abondance, je te donnerai une sagesse comme aucun autre n'aura connue. Dieu se rapproche. Et puis, il va y avoir, non pas de la part de Dieu, mais de la part des peuples, donc de notre part, reconnaissons-le, un éloignement de nouveau l'idolâtrie, et Dieu va dans sa patience, va attendre 400 ans, mais va être obligé d'envoyer un châtiment. Et le peuple va perdre son territoire, va perdre ce que Dieu voulait lui donner, ne va plus vivre les promesses. Ça va être la déportation à Babylone. Puis suivra un temps de silence de 4 siècles et demi. Mais là, Dieu, on va dire le plan de Dieu, ça a échoué alors. Il y a l'alliance, c'est annoncé le salut, il a échoué. Non, il n'a pas échoué. Hébreu nous dit, Hébreu 1, la venue du Fils. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il envoie son Fils. Le plan de Dieu se déroule. Le plan de Dieu se déroule. Le temps n'est pas un problème avec Dieu. Je viens en quelques minutes de dérouler 3 ou 4 millénaires. C'est le plan de Dieu. Nous avons besoin de considérer ces choses. Un passage a été lu, je crois, par Myriam tout à l'heure. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout, mais il a l'œil et il ne dédaigne pas. Quand un cœur est contrit, quand un cœur revient à lui, ça, il sent Dieu. Cette venue du Fils avait été annoncée par les prophètes. D'ailleurs, dans des circonstances, quand on regarde, c'est dans Ésaïe 7 au verset 13, le peuple qui poursuit dans sa désobéissance, dans son idolâtrie. Ésaïe déclare au verset 13 d'Ésaïe 7, Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel, nous l'avons chanté. Dieu se rapproche, maintenant c'est Dieu avec nous. Venu en chair, le Fils de Dieu va venir en chair. Ce n'est plus une tente avec le tabernacle, c'est maintenant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair. Oui, le Dieu d'éternité a choisi de se manifester à une humanité déchue, pécheresse, dans une chair semblable à celle de l'homme. Dieu avec nous, au milieu de nous, c'est l'Emmanuel. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que le monde soit sauvé. Je ne peux pas durer 3000 ans pour faire ça. Mais vous vous rendez compte, la patience de Dieu. À toutes ces alliances, ça nous a été rappelé aussi, ce Dieu d'alliance, ce n'est jamais lui qui a rompu l'alliance. C'est toujours nous qui nous sommes éloignés. Quel amour. Et nous arrivons, ce que j'appelle les 50 jours où l'histoire de l'humanité a basculé, ou encore qu'on pourrait appeler la naissance de l'Église. Et là, je vais vous parler de choses que vous connaissez, bien sûr. Mais je crois qu'on ne peut pas parler de la Pentecôte sans prendre la séquence, je dirais, qui va de Gethsémané à la Pentecôte. C'est ces 50 jours-là qui font basculer l'humanité, et dans le bon sens cette fois-ci. Il y a la mort de Christ à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Le sacrifice expiatoire va amener la réconciliation. Expiatoire, c'est-à-dire que cette mort, il est mort à notre place. La résurrection, c'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu est manifestée par la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Pierre va le déclarer en acte 2, 24, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est Dieu qui est aux commandes. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Matthieu 16, verset 16, Simon-Pierre a compris ça, répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, etc. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus-Christ, mort à la croix, a vaincu la mort. Dieu se rapproche, nous approchons de ce temps, de l'accomplissement de ce temps où Christ va pouvoir vivre en nous. Mais nous n'y sommes pas. Parce que pour l'instant, Jésus-Christ est le premier ressuscité, il est en tout le premier. Dieu a manifesté que sa justice est pleinement satisfaite par le sacrifice de son Fils. N'allons pas trop vite dans les étapes. C'est le sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qui est reconnu favorable. Il est réalisé dans des conditions qui satisfont en tout point les critères de Dieu, sainteté, justice, amour. Il est intéressant de considérer que dans l'arche, c'était les chérubins qui gardaient le propitiatoire. C'était quoi ce propitiatoire ? Là où Dieu acceptait de rencontrer l'homme malgré le péché. Parce que le sang avait été mis sur le propitiatoire. Et les chérubins ne sont plus là avec l'épée, mais ils sont sur un regard bienveillant. C'est beau, c'est quelque chose de prophétique aussi. Dieu annonce que le sacrifice du Fils va être favorable, propice pour l'homme. Si dans le sacerdoce lévitique, le sang des boucs et des taureaux était agréé pour purifier certains péchés, combien plus le sang de Jésus-Christ nous purifie-t-il et ôte tout péché, nous déclare Hébreux. L'accès à Dieu, qui plus est révélé, et l'accès de Dieu est ouvert, et Dieu nous est révélé comme Père. Ça, c'est aussi l'œuvre de Christ. La montée au ciel, l'ascension. J'ai noté dans une prière, je crois que c'est Gilles tout à l'heure, la Pentecôte rend le tout accompli vivant. Je reprends cette phrase. La Pentecôte rend le tout accompli de la croix vivant, opérationnel. Je pense que ça, c'est une bonne pensée. La Pentecôte rend opérationnel le tout accompli. À la croix, tout est accompli. Le chemin est ouvert. Mais comment établir la liaison ? C'est l'œuvre de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit. J'aime bien cette phrase. Mais avant, parce qu'on n'y est pas à la Pentecôte, avant il y a l'ascension. Avec la mort et la résurrection de Christ, donc tout est accompli, le jugement du vin concernant le péché et ses conséquences à travers la production du péché, j'aime bien souligner ça, à la croix, c'est le sang a coulé, nous purifie de tout péché, mais il nous a pris avec lui dans sa mort pour mettre dans le tombeau l'arbre qui produit le péché. C'est très important. La production de péché par tout homme depuis la chute a été prononcée, la peine a été exécutée, le sacrifice expiatoire et propitiatoire est réglé, il faut qu'un seul homme meure, lui le juste pour les injustes, s'écriera le souverain sacrificateur, le Fils de Dieu dans une chair semblable à la nôtre, a terminé sa première mission terrestre, non pas juger le monde, mais sauver le monde. Ce qui était fait, devait être fait pour que le monde puisse être sauvé, est accompli. Maintenant, il s'agit de s'en saisir. Désormais, quiconque invoquera le nom du Seigneur et croira en la valeur de son sacrifice sera sauvé. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier ces choses-là. Et Jésus-Christ a accompli. Le voilà ressuscité, se montrant aux siens. D'abord aux femmes, puis aux 12, puis jusqu'à 500 personnes à la fois. Et pendant 40 jours, il va parler du royaume de Dieu. On n'a pas plus de précision. Mais on peut maintenant parler du royaume de Dieu, puisque le chemin est ouvert, puisque Dieu va pouvoir régner. Et on va voir comment. Jésus va dire à Marie-Madeleine, au tombeau, va vers mes frères et dis-leur que je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Écoutez, ça c'est vraiment une phrase admirable. On ne mesure pas. C'est parce qu'il a accompli ça que cette phrase peut être prononcée. Lui le Fils va devenir le premier et nous à sa suite. Hébreux rappelle, c'est pour ça qu'il peut nous appeler ses frères. Et à l'ascension, Jésus-Christ remonte auprès du Père. Et là, le Père lui dit, maintenant, répands le Saint-Esprit, conformément à ce que Jésus avait annoncé. Je vous enverrai un autre consolateur. Je ne serai pas toujours avec vous, mais lui sera toujours avec vous. Et là, il y a la dimension universelle qui va venir avec ce Saint-Esprit répandu. Parce que Jésus était sur la terre, homme aussi. Il n'avait pas, en tant qu'homme, la possibilité d'être à plusieurs endroits à la fois. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, va opérer cela. Et c'est ça le salut, la dimension universelle du salut. Donc l'envoi du Saint-Esprit à la Pentecôte, le chemin est à nouveau ouvert, une restauration de la communion et de la relation avec le Créateur est maintenant possible. Alors je voudrais souligner un point. Et c'est là où la vie, la nouvelle naissance, c'est quelque chose de différent encore, à mon sens, de ce qui était en Éden. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris quelque chose de sa création. La poussière de la terre, c'est Dieu qui l'avait créée. Il a soufflé. devint une âme vivante. Par le salut, par l'œuvre à la croix, l'ascension, le Saint-Esprit répandu. Le Saint-Esprit peut agir, va venir convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement, va nous donner une vie nouvelle, une vie de résurrection. Une vie de résurrection. Qui dit vie de résurrection dit qu'il y a eu mort. Et la parole nous dit, s'il est vrai que notre corps est mort, parce que notre corps est mort, il reste marqué par la puissance du péché, il faut donc une puissance plus grande pour lui donner la vie, et c'est une vie de résurrection. Et je voudrais qu'on saisisse cela. La nouvelle naissance, la vie chrétienne, c'est une vie de ressuscité, c'est une vie de résurrection, parce que nous étions morts. Ce n'est plus l'Éden, j'allais dire c'est mieux. Et il y a une intimité. Et là, le plan de Dieu est accompli. Christ est en nous, par l'Esprit. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Alors, je ne vous donne pas de choses pratiques, vous allez me dire ce matin. Mais moi, je crois que si on réalise ça, notre vie, elle va changer. Notre regard encore change quand on considère la bonté de Dieu. Ce plan d'amour pour une humanité perdue. Cette puissance. Parce qu'il faut de la puissance pour donner la vie. Le printemps nous le montre en ce moment. Écoutez, quand je vois des arbres de 30 mètres et que les bourgeons éclatent là-haut, vous avez vu la pompe qu'il faut pour envoyer ça là-haut? C'est extraordinaire. Ça, c'est la vie naturelle. Mais ce qui est naturel vient d'abord, ce qui est spirituel vient ensuite. Nous avons une vie de résurrection. Frères et sœurs, saisissons ces choses. La Pentecôte, c'est ça. C'est l'effusion du Saint-Esprit qui vient toucher, qui vient faire toute son œuvre. C'est Jésus. Il y a un ordre dans la Trinité. Ce n'est pas le désordre dans la Trinité. C'est des fois le désordre dans les églises, mais pas dans la Trinité. Le Père a conçu le plan. Le Fils l'a accompli. Et le Saint-Esprit opère pour que ce salut, cette œuvre judiciaire accomplie, qui a trouvé la satisfaction du Père, puisse être de tous les cœurs. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par le Saint-Esprit qui vient convaincre les cœurs, qui vient donner une nouvelle vie, qui vient changer, qui vient ôter la méchanceté, qui vient ôter. Nous le verrons ça dimanche prochain. Les fruits de la Pentecôte. Ils mettaient tout en commun, ils ne disaient plus que les choses leur appartenaient. Ils étaient ensemble, d'un même cœur. Ça, c'est les fruits du Saint-Esprit, les fruits de la Pentecôte. Ce n'est pas des choses les unes à côté des autres, c'est le plan de Dieu qui se déroule. Je ne sais plus où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Oui, la Pentecôte, vous l'avez noté, mais c'est la phrase qui était donnée. La Pentecôte, c'est la concrétisation de l'Évangile. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a plus besoin de venir au temple de Pierre à Jérusalem ni à Samarie, mais l'Esprit de vérité vient convaincre le cœur de tout homme de péché, de justice et de jugement. Et pour l'homme ou la femme qui accepte de reconnaître ces choses, alors le Seigneur peut venir s'établir et demeurer. La présence du Saint-Esprit, établie dans un cœur repentant, conduit à la vraie liberté, dans une marche juste et sainte que produit la vérité. Voilà la marche chrétienne. Voilà ces choses. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le Saint-Esprit est puissant. La puissance de résurrection seule peut accomplir ces choses. Nous avons besoin de comprendre ces choses, sinon nous nous enferrons dans des luttes dont nous ne sortons pas. Et nous restons enfermés. Il est un Dieu de vie, il est un Dieu, il est plus que ça, il est un Dieu de résurrection. C'est la présence du Saint-Esprit, mais je l'aborderai plus longuement dimanche prochain, consolateur et esprit de vérité qui nous rend capables de vivre l'intersoumission au sein du corps, nous reconnaissant pécheurs, rachetés, devenus fils adoptés à la suite du Fils bien-aimé. Je redis ça, nous reconnaissant pécheurs, rachetés, devenu fils adopté à la suite du Fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà les mystères dont Paul va dire qu'ils ont été cachés aux générations précédentes et ont été révélés maintenant. Frères et sœurs, mesurons ce privilège. Le temps de la grâce, certain d'exigence en même temps. Mais, Dieu a envoyé ce qu'il fallait pour que nous puissions satisfaire à ces exigences. La Pentecôte, par l'effusion du Saint-Esprit, vient inscrire la loi de Dieu dans les cœurs, non plus sur des tables de pierre avec un commandement impossible à exécuter, à cause de la puissance du péché qui habite en nous, mais dans nos cœurs, qui, par le Saint-Esprit, deviennent capables d'obéir à la tête. Et m'est venue cette pensée, voilà ce qu'est l'Église. D'abord la tête, Jésus-Christ, puis le corps. Et m'est venue cette pensée, pendant que je préparais ce message, quand on voit un embryon, au démarrage, on dit ça ressemble un peu à un tétard, parce qu'il y a la tête, puis le reste, très peu. Je pense que c'est aussi une image. D'abord la tête, et puis le corps. Puis ceux qui vont reconnaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui vont reconnaître comme la tête, vont venir. Et le corps va croître. Et c'est lui qui va tirer l'accroissement de ce corps, selon la force qui convienne à chacune des parties. Mais d'abord la tête. Nous ne pouvons pas, si nous ne vivons pas à la tête, à lui. C'est lui d'abord, à lui. Toute la gloire et l'honneur. Alors nous vivons dans ce temps de l'Église inaugurée à la Pentecôte. L'Église est inaugurée à la Pentecôte, mais je pense vous avoir partagé que c'est cette séquence des 50 jours, Pentecôte ça veut dire 50, c'est cette séquence-là qui fait basculer l'humanité dans le bon sens. Ce temps prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. Notre intimité avec le Seigneur sera alors encore plus grande, parce que l'histoire n'est pas finie. Après le temps de la grâce, il y a le retour du Seigneur. Après le retour du Seigneur, il y aura à ce moment-là les noces de l'agneau. Et puis il viendra régner, et puis il viendra le jugement dernier. Mais où nous n'aurons rien à craindre dans ce jugement dernier, parce que nous lui appartenons. Et puis, il est dit, je vais relire ce texte dans 1 Corinthiens 15, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. » Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque il dit que tout lui était soumis, il est évident que celui, le Père, qui lui a soumis toutes choses est excepté, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'intimité sera encore plus grande. Dieu sera tout en tous. Et Apocalypse 22 nous dit, verset 1-5, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, nous y voilà, produisant 12 fois ses fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous verrons sa face, la face de Dieu. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Voilà le temps où nous sommes. Ce temps qui a basculé dans les 50 jours entre Gethsémané et la Pentecôte. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de l'Église, c'est le temps où nous sommes. Et nous avons cette espérance pour la suite. Je crois que c'est important qu'on se resitue et nous verrons dimanche prochain les conséquences concrètes, les fruits de la Pentecôte. Je vais simplement m'arrêter là aujourd'hui. Et j'aurais pu demander avant même le chant de la fin, nous prenions ce chant « Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant ». Tu es vivant et tu reviens. Pour rester